Voilà, merci mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, auditrices de Radio Okapi, bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. À la une de cette conférence de presse, la présentation du rapport trimestriel de Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, devant le Conseil de sécurité aujourd'hui. Et puis UNPOL, la police des Nations Unies, soutient la PNC à Bounia avec la création d'une cellule de garde à vue. La présentation des informations du groupe de communication des Nations Unies sera tout à l'heure faite par Florence Marshall. Et puis le point de presse militaire sera fait depuis Goma par le lieutenant-colonel Amouzou Kodjo Martin, qui va faire donc une synthèse de l'actualité militaire de la semaine. Notre invité sera tout à l'heure Monsieur Dominique Adjaouinou, que nous attendons d'un moment à l'autre. Il est le chef de l'unité élection au sein de la division donc des affaires politiques de la MONUSCO. Voilà donc pour les grands titres de cette conférence de presse que nous ouvrons tout de suite avec donc cette information. Monsieur Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC, présente aujourd'hui devant le Conseil de sécurité des Nations Unies son rapport sur la situation en RDC. La présentation de ce rapport sera faite devant le Conseil à partir de 15h, heure de Kinshasa, donc nous n'allons pas brûler bien sûr l'embargo. Et puis juste avant cela, il y aura la présentation du rapport sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Nous ferons donc, comme je le dis, tout en respectant l'embargo, nous ferons une synthèse des déclarations faites par Martin Kobler sur les médias sociaux de la MONUSCO, Twitter, Facebook, etc., en temps réel. Passons à présent aux activités des différents départements et sections de la MONUSCO. Projet à impact rapide. La première pierre des nouvelles cellules de garde à vue pour les policiers et militaires détenus pour faute professionnelle au commissariat urbain ou au quartier de Soukissa à Bounia a été posée en présence du général Pascal Champion, le chef de la composante police MONUSCO, de Man Ladzouzi, le chef de bureau MONUSCO en Ituri, et du général Joseph Ali Massi, le chef de la police nationale congolaise sur place. L'objectif de la construction de cette nouvelle cellule de garde à vue est de garantir le droit et la sécurité des personnes gardées à vue en séparant les civils et les fonctionnaires de ces policiers ainsi que les militaires. Donc, outre les cellules de garde à vue pour les policiers et les militaires femmes et hommes, des douches et toilettes séparées seront construites également pour assurer une bonne condition de détention dans le respect des droits de l'homme. Le général Pascal Champion a d'ailleurs souligné que ce projet est essentiel pour garantir le respect des droits de l'homme. Ces cellules permettront de protéger les policiers et les militaires détenus contre d'éventuelles exactions et représailles qui pourraient être mises en exécution par les suspects détenus sur place, avant d'ajouter que ce projet s'inscrit dans le cadre donc du renforcement des capacités de la PNC. Le coût de la construction de ces nouvelles cellules de garde à vue est évalué à 27 000 $ américains. Dans le cadre de son programme de projet à impact rapide, donc, la MONUSCO soutient ce projet à hauteur de 25 000 $ américains, auxquels viennent s'ajouter une contribution locale de 2 500 $. Le suivi et la mise en œuvre de ce projet sera assuré en collaboration étroite entre le chef de la composante UNPOL en Ituri et le commandant de la PNC sur place en Ituri. Nous restons toujours avec la police MONUSCO pour signaler que le chef d'état-major de la police MONUSCO a procédé samedi 3 octobre à Goma au lancement de la première session de renforcement des capacités en formation des formateurs au profit de 6 UNPOL police MONUSCO, donc, dont 2 femmes venues des secteurs de Kalemie et de Goma. Cette session de renforcement des capacités vise à compléter et à mettre à jour les acquis des uns et des autres en matière de formation, afin que les UNPOL, dans leur tâche de formation de la police nationale congolaise, puissent être à même de dispenser des cours d'une bonne qualité. Cette formation, d'une durée de 5 jours, s'étendra aux autres secteurs dans les jours à venir, afin de mieux former sur toute l'étendue du territoire congolais la PNC, que la composante donc UNPOL doit rendre au fil du temps autonome et professionnelle. Des sessions de recyclage visant le renforcement des capacités des agents de la police nationale congolaise en sécurisation du processus électoral se poursuivent notamment à Sake, Kalemie, Manono, Kisangani, Lubumbashi et Kongolo. Vous aurez plus de détails de toutes ces informations dans le verbatim qui vous sera distribué tout à l'heure à la fin de cette conférence de presse ou sur le site de la MONUSCO ainsi que d'ailleurs sur le site de Radio Okapi. Voilà tout pour les informations donc de la MONUSCO et nous passons tout de suite aux informations des différentes agences des Nations Unies une synthèse des activités de ces agences est présentée donc par Florence Marchal. Florence, bonjour.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Nous en avions parlé la semaine dernière lors de la dernière conférence de presse et c'est désormais chose faite. Le rapport bilan des progrès accomplis par la RDC dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, pour la période 2000-2015 a été lancé officiellement hier par le Premier ministre Matata Ponyo en présence d'un public nombreux dont le représentant spécial adjoint du secrétaire général, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire Mamadou Diallo, qui a prononcé un discours au nom du système des Nations Unies, partenaire pour le développement de la République démocratique du Congo. Si la RDC, à l'instar de nombreux autres pays d'Afrique, n'a atteint aucune des cibles visées, des progrès ont été enregistrés dans plusieurs domaines. La scolarisation universelle pour tous au niveau du primaire est quasi atteinte. La parité dans l'enseignement est en augmentation constante. La mortalité des enfants et la mortalité maternelle ont diminué. Vous le savez, les OMD sont arrivés au bout de leur cycle de vie. Ils vont être remplacés dès 2016 par les Objectifs durables de développement, les ODD, qui viennent d'être adoptés à New York lors du sommet spécial sur le développement durable. Les ODD, tout comme les résultats du rapport bilan, serviront de base au futur plan national stratégique de développement pour la République démocratique du Congo sur la période 2017-2021. Des informations plus détaillées sont contenues dans un communiqué de presse qui sera remis à l'issue de cette conférence. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour le Réfugié et le Programme Alimentaire Mondial ont diffusé hier un communiqué conjoint dans lequel ils expriment leurs inquiétudes concernant le manque de fonds pour maintenir l'assistance en faveur des réfugiés en provenance de la République centrafricaine qui à ce jour sont plus de 100 000. Depuis le début de la crise, en mars 2013, plus de 65 000 réfugiés centrafricains ont été installés dans 4 camps dans les provinces du Nord et du Sud Ubangi, pendant que d'autres vivent au sein de familles d'accueil. Le HCR manque de fonds pour l'installation d'abris pour ces réfugiés, ainsi que pour satisfaire leurs besoins en matière de santé et d'éducation. Le PAM pourrait, quant à lui, sans la confirmation de nouvelles contributions, ne plus assurer son opération d'aide alimentaire d'urgence dès la fin novembre. Ce mercredi 7 octobre, le Japon a signé un accord de don avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, pour un projet conjoint de 4 millions de dollars américains. Ce projet vise à la réintégration communautaire et socio-économique de 1000 ex-enfants soldats et enfants vulnérables dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Les partenaires nationaux de ce projet sont le bureau de la représentante spéciale du chef de l'État pour la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants soldats, ainsi que l'Institut national de préparation professionnelle. Outre le PNUD, les agences des Nations Unies concernées sont ONU Femmes, le PAM et l'UNICEF. Le projet prévoit des activités non seulement à destination des 1000 bénéficiaires directs, mais pour l'ensemble de la communauté de la zone concernée, soit plus de 200 000 personnes. Et puis enfin, encore une autre information qui nous a été transmise par le PNUD, qui organise aujourd'hui et demain à Goma un atelier de monitoring pour les autorités judiciaires des provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme conjoint « Luttons contre le viol », de lutte contre l'impunité, d'appui aux victimes de violences sexuelles et basées sur le genre et d'autonomisation des femmes à l'aide de la RDC, un projet mis en œuvre depuis 2013 et financé par le Canada. Depuis 2010, le PNUD a investi plus de 500 000 dollars pour mettre en œuvre un monitoring judiciaire des cas de violences sexuelles et basées sur le genre. Dans un premier temps, il a conduit lui-même ses opérations d'évaluation et maintenant, il transfère progressivement ce monitoring à 3 universités congolaises, l'Université libre des Pays des Grands Lacs, l'Université catholique de Bukavu et enfin l'Université de Bunia.
Voilà, merci à Florence pour cette synthèse des actions et des activités, des informations en provenance des différentes agences du système des Nations Unies présentes ici donc à RDC. Direction Goma, nous allons retrouver donc le lieutenant-colonel Amouzou Martin Koudjo. Monsieur Martin Koudjo, c'est à vous.
La situation militaire en République démocratique du Congo durant la semaine écoulée est demeurée stable, mais reste toutefois imprévisible en province orientale. En Ituri, au Sud Kivu et au Katanga, où l'activisme des groupes armés est constitué essentiellement de meurtres, de kidnapping, de viol, de vol et de destruction massive de maisons. Les troupes des forces onusiennes et congolaises poursuivent leurs opérations de neutralisation de ces différents groupes armés encore actifs dans cette province, en vue d'assurer la protection des populations civiles. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire demeure probablement tendue et instable du fait des actions perpétrées contre les populations civiles, principalement par des éléments de l'Alliance des forces démocratiques, ADF, dans le territoire de Bénin. Mouvement Défense of Congo, MDC, Renové et Tchéka, dans le Walikale, et ceux des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDR, dans les autres territoires de cette province. Le 4 octobre 2015, des éléments ADF ont tiré sur une patrouille de la brigade d'intervention de la MONUSCO sur l'As Oïtia Mamoundima. Aucun dégât n'a été signalé. Du 30 septembre au 5 octobre 2015, 7 civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées suite aux accrochages entre des éléments FDR et ceux du groupe NDP Tchéka dans la localité de Bunyantangé, située à 120 km au sud-ouest de Lubero Centre. Par ailleurs, le 5 octobre 2015, la MONUSCO est intervenue avec l'appui d'hélicoptères de combat et des éléments de forces spéciales dans les villages de Minova et de Musanga, situés à 10 km nord de Tinga, territoire de Walikale, où l'action des groupes armés a provoqué des mouvements de population civile et la destruction de maisons massives dans la zone. Le bilan fait état de pertes dans le rang des groupes armés. Les investigations sont en cours. Au chapitre de résistance dans cette province, du 30 septembre 2015 à ce jour, 6 éléments en provenance des groupes armés se sont rendus aux troupes de la MONUSCO déployées dans la province. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1111 patrouilles armées, dont 322 nocturnes et fourni 75 escortes pendant la période sous-examen. Merci Charles.
Voilà, merci au lieutenant-colonel Martin Amoudjou Kodjo qui faisait donc la synthèse de l'actualité militaire. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, notre invité donc est aujourd'hui Monsieur Dominique Adiawinou, qui est donc chef de l'unité élection au sein de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Bonjour Monsieur Adiawinou.
Bonjour.
Alors votre unité accompagne depuis plusieurs mois la CENI et vous produisez depuis 2 mois je crois des rapports mensuels sur la situation électorale donc en RDC. Il s'agit en réalité d'un catalogue de faits, d'actions qui sont effectivement passées sur le terrain ici à Kinshasa ou à travers le pays. Et donc cette synthèse nous est proposée et c'est dans ce cadre que nous avons invité pour nous parler du tout dernier rapport, le rapport du mois de septembre donc, que vous avez publié récemment. Alors, quelle est la synthèse de ce rapport que vous pouvez présenter aujourd'hui devant la presse quinoise ici et puis la presse de Goma?
Je voudrais préciser que dans le cadre de l'exécution du mandat qui nous a été donné, nous devons suivre ces incidents afin de pouvoir faire une évaluation du progrès que l'État congolais fait au niveau du processus démocratique. Et ceci d'ailleurs, du point de vue de notre appui au processus électoral, c'est une conditionnalité parce que le progrès est fait sur le plan de processus démocratique, permet un appui, surtout au niveau de la logistique, à la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons commencé à faire ce travail depuis janvier. Donc, on est en droit aujourd'hui de faire une évaluation de cette période, donc jusqu'en août. Et je voudrais préciser que ce que je vais dire, ce n'est pas le taux de violation ou le nombre de violations des droits de l'homme de manière générale, mais ce qui est lié au droit électoral. C'est-à-dire que je parlerai plus de la violation du droit électoral, c'est-à-dire plus précisément des incidents électoraux relevés sur le territoire national. Je peux dire que pendant la période de janvier à août 2015, nous avons enregistré 62 incidents électoraux et qui ont été relevés sur toute l'étendue du territoire national. Les incidents les plus nombreux ont été observés au cours des mois de janvier et d'août. Janvier, nous avons relevé 15. En août, nous avons relevé 11. Mais je pourrais à ce niveau dire que il y a une montée. Donc, pour parler du mois de septembre, nous sommes allés à 12. Donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, si on prend les mois qui ont eu plus d'incidents électoraux enregistrés, nous allons parler de janvier, d'août et puis de septembre. Où est-ce que ces incidents-là ont été relevés? Et c'est presque dans toutes les provinces, sauf au Bandundu et dans l'Équateur, où nous n'avons pas enregistré des violations des droits électoraux pour le moment. Et les provinces de Kinshasa, du Kasaï oriental, les taux respectifs, c'est de 40 et 21%. Pourquoi Kasaï oriental? On peut imaginer que il y a une attention plus particulière du gouvernement pour la province où l'UDPS est entre griffes, plus le leader charismatique est de là. Et Kinshasa, parce que beaucoup d'activités politiques et tout électorales s'y passent. Pourquoi on a eu le mois de janvier, le mois de septembre ou le mois d'août assez élevé? Mois de janvier, souvenez-vous, c'était la période de la contestation de la population sur certains articles de la loi électorale qui allait être votée. Donc il y a eu beaucoup de contestations, donc vous connaissez les événements qui se sont déroulés. Mois d'août, on note que nous sommes en train de nous approcher de la date qu'on pourrait appeler la date prévue pour les élections. Il y a plus d'activité au niveau des partis politiques, et puis les contestations ont surtout été plus intenses à cause de la date des élections que les partis politiques ont commencé à se dire est-ce que cette date-là sera respectée. Et puis, vous connaissez aussi tout ce qui y a été autour. Le mois de septembre, également la même chose. Donc, en conclusion, nous pourrons même dire que plus on s'approche de la date prévue pour les élections, je ne sais pas si ça va se tenir, mais plus il y a une montée de violences ou d'incidents électoraux qui sont enregistrés. Entre le mois de janvier et le mois d'août, il y a eu une sorte d'accalmie, mais le regain a été constaté à partir du mois d'août, et le mois de septembre n'a pas démenti notre façon de lire la façon dont les choses se passent au niveau des incidents électoraux. Voilà ce que je peux dire.
Voilà, merci donc à Dominique Adjaouinou, qui est le chef de l'unité élection au sein de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Je crois que vous aurez une synthèse de ce rapport, des incidents, nous disons bien des incidents électoraux, c'est pas vraiment la situation générale des droits de l'homme, à la fin donc de cette conférence de presse.